Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. L'incertitude en Israël avec les premiers résultats des élections législatives. Le Likoud de Benjamin Netanyahou et le parti bleu-blanc de Benny Gantz sont pratiquement à égalité. Aucun bloc majoritaire ne semble se dessiner. Dans un instant, les dernières tendances avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Omar Waman, et le commentaire de notre invité, le journaliste israélien Dov Alphon. En Espagne, sauf coup de théâtre, les électeurs retourneront aux urnes le 10 novembre prochain. Le socialiste Pedro Sanchez, vainqueur du dernier scrutin en avril, n'a pas réussi à bâtir une nouvelle majorité. La correspondance à Madrid de Mathieu de Taillac. Le réchauffement climatique s'accélère selon des scientifiques français. Il pourrait même atteindre les 7 degrés supplémentaires d'ici 2100 dans le pire des scénarios. Les explications à venir de Véronique Robérotte. Difficile donc ce soir de désigner un vainqueur dans les élections israéliennes, les deuxièmes en 5 mois. Les premiers sondages sortis des urnes donnent le premier ministre Benjamin Netanyahou au coude à coude avec son rival centriste, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz. Netanyahou sous la menace d'une inculpation pour corruption qui joue sa survie politique sur ce scrutin. Nous sommes en direct du QG de Benny Gantz à Tel Aviv avec notre envoyé spécial Omar Waman. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Omar, vous nous confirmez la tendance. Le Likoud de Netanyahou et le parti bleu-blanc de Gantz sont dans un mouchoir de poche ce soir.
Oui, ce qu'il faut dire d'abord, Stanislas, c'est que les bureaux de vote ont fermé il y a une heure. Et ici, il faut le dire, la tension est vraiment à son comble. Les militants de la coalition bleu-blanc, ce bloc de centre-droit amené par Benny Gantz, eh bien, ces militants retiennent véritablement leur souffle. Il n'est pas question de reproduire ce qui s'est passé aux dernières élections législatives du mois d'avril dernier. Souvenez-vous, Benny Gantz avait proclamé sa victoire avant de se rétracter devant des résultats incontestables donnant Benjamin Netanyahou gagnant. Donc ce soir, c'est profil bas. L'équipe de Benny Gantz redouble de prudence. Benny Gantz qui n'est toujours pas arrivé ici, hein, sur le port de Tel Aviv, dans ce hangar où deux écrans délivrent depuis une heure les grandes tendances de ce scrutin. Donc effectivement, la liste de Benny Gantz arriverait très largement, légèrement, devant le Likoud de Benjamin Netanyahou. Légère avance avec 33 et 32 sièges chacun, mais cela va évoluer dans la soirée. Mais cela ne présage en rien de la capacité de l'un ou de l'autre à former une coalition avec les petits partis de gauche ou d'extrême gauche. Pour Benny Gantz, c'est des partis religieux ou ultra-orthodoxes. Pour Benjamin Netanyahou, le faiseur de roi, l'arbitre de ce scrutin, c'est encore une fois Avigdor Lieberman, le nationaliste, ancien ministre de la Défense. C'est lui qui détient les clés du scrutin.
Oui, justement, Omar, quel que soit le vainqueur ce soir, il devra former une coalition pour gouverner. Alors, quels sont les scénarios envisagés ?
Alors tout d'abord, Stanislas, ce qu'il faut dire, c'est que les partis vont d'abord négocier. Hein. Elles vont tenter des alliances, elles vont effectivement tenter de se réunir, des alliances vont se dessiner et chaque tête de liste sera ensuite consultée par le président israélien Reuven Rivlin et vont donner leurs recommandations, donner leurs suggestions au président. Et le dernier mot reviendra donc au chef de l'État qui tranchera. Mais on n'en est pas encore là. L'heure est aux tendances avant les résultats définitifs attendus demain, mercredi ou encore jeudi au plus tard. Et les négociations s'annoncent houleuses, hein, notamment entre Netanyahou et ses alliés. Alliés religieux qui pourraient faire monter les enchères pour obtenir tel ou tel ministère en échange d'un soutien à ce Premier ministre qui joue sa survie politique.
Omar Waman en direct de Tel Aviv, merci. Invité de ce journal, Dov Alphon, journaliste et romancier israélien, correspondant à Paris du Haaretz, l'un des principaux journaux en Israël. Bonsoir.
Bonsoir.
Dov Alphon, un résultat indécis ce soir, comme nous l'a expliqué à l'instant Omar Waman. Il fallait s'attendre à un tel scénario, selon vous ?
Pourquoi pas, si on refait exactement la même chose avec les mêmes acteurs, pourquoi attendre un autre résultat ? En fin de compte, les deux candidats principaux espéraient que les supporters de l'autre parti ne viendraient pas aux urnes, peut-être une fatigue de Netanyahou, peut-être un mouvement gauchiste anarchiste qui n'irait pas voter. Eh bien, ces scénarios ne se sont pas produits, le degré de participation était élevé, et donc on est dans la même impasse qu'on était il y a 5 mois.
Ça veut dire que le regain de participation enregistré aujourd'hui n'a profité, a priori, à aucun des candidats ?
il nous manque quand même les données véritables. N'oublions pas que ces sondages de fin de clôture sont généralement en erreur d'environ 5% d'un côté ou de l'autre, et ça peut jouer en faveur d'un des candidats. Par exemple, il est vraisemblable que les votes des militaires soient plutôt en faveur de Benny Gantz que de Netanyahou. Il est vraisemblable que les sondages sur les résultats des villages palestiniens israéliens ne soient pas crédibles, parce qu'il est très difficile d'avoir des sondages conséquents. Donc les vrais résultats, demain sans doute dans l'après-midi, donneront peut-être un tout petit avantage encore à Gantz, ou au contraire un ex aequo total.
Dov Alfon, Benjamin Netanyahou vous semble-t-il en mesure de trouver une coalition pour gouverner, alors qu'il avait échoué à bâtir cette coalition après sa victoire en avril dernier? Qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait tout d'un coup bâtir cette coalition?
Alors d'abord, son expérience immense dans ce genre de négociation par rapport à Gantz, d'abord. Mais secondo, c'est sa survie qu'il joue. Ce n'est pas sa survie politique, c'est sa survie tout court, parce que s'il ne réussit pas à former un gouvernement, c'est début octobre, sans doute un long processus judiciaire qui pourrait le mener en prison, comme d'ailleurs l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Donc, il va tout jouer. Et par exemple, il pourrait téléphoner à Lieberman, ce fameux Avigdor Lieberman, dès ce soir, et lui dire « Que veux-tu ? Que veux-tu ? Dis-moi ce que tu voudrais pour rentrer dans cette coalition, et je te le donnerai, parce qu'il n'a pas d'autre choix. »
Comment vous expliquez cette popularité malgré tout de Netanyahou, en dépit de ses ennuis judiciaires? Parce que, quel que soit le résultat, il garde environ une trentaine de sièges. En tout cas, c'est le résultat du Likoud.
Oui. Tout de même, sa popularité est un peu exagérée à l'étranger, puisque cela fait déjà la quatrième campagne électorale qu'il perd. Il perd le résultat de ce qu'on appelle aux États-Unis le vote populaire, mais il réussit à mener des coalitions à bien grâce à des instruments de négociation. Il est beaucoup plus expérimenté, et aussi on peut avoir l'impression son opinion du futur, de l'avenir d'Israël, lui importe moins que son avenir personnel, ce que peut-être Benny Gantz ne ferait pas. Ceci dit, il est encore effectivement très populaire dans les couches, qui n'ont pas eu accès aux gains de la fameuse Startup Nation, qui ne voient pas leur pouvoir d'achat augmenter, qui sont effrayés de ce mode de vie laïque que Tel Aviv exporte un peu partout dans le pays. Et ce sont ceux-là, comme d'ailleurs ceux qui votent pour Donald Trump, ils leur ressemblent beaucoup, ce sont ceux-là qui ont encore une fois mis leur bulletin de vote pour Netanyahou ce soir.
Dernière question, Dov Alfon, concernant Benny Gantz, l'adversaire de Benjamin Netanyahou. On le présente comme un centriste vu de France. Ça signifie quoi être centriste en Israël?
Je pense que ça signifie d'abord que sur les questions militaire, il ne dirait non a priori à aucun développement qui répondrait aux questions de sécurité d'Israël. C'est déjà beaucoup. Par exemple, le discours raciste anti-arabe très présent dans les déclarations de Netanyahou ces derniers mois va sans doute disparaître. Ce n'est pas beaucoup, et pour les Palestiniens, il n'y a certainement aucune occasion ce soir d'ouvrir le champagne, même si Benny Gantz était chef du gouvernement, mais c'est déjà quelque chose.
Dov Alfon, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie votre roman d'espionnage qui vient de sortir en France, Unité 8200, l'histoire d'un Israélien qui disparaît mystérieusement à Paris, un livre qui vient d'être publié aux éditions Liana Levy. C'est l'impasse politique ce soir en Espagne. Le roi Felipe VI a annoncé tout à l'heure qu'il n'allait proposer aucun candidat au poste de chef du gouvernement. L'actuel titulaire du poste, le socialiste Pedro Sanchez, n'a pas réussi à bâtir une majorité pour gouverner, faute d'appui suffisant à la Chambre des députés. Son parti, le PSOE, était pourtant arrivé en tête des élections fin avril. Nous sommes en direct de Madrid avec Mathieu Le Taillac. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Mathieu, l'Espagne va donc se diriger vers de nouvelles élections, comme l'a confirmé tout à l'heure Pedro Sanchez.
Oui, les Espagnols vont voter à nouveau le 10 novembre prochain. Ce seront les quatrièmes élections législatives en 4 ans. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement sortant, l'a confirmé il y a effectivement une heure. Le roi a constaté que personne, ni Sanchez, ni aucun autre responsable politique, n'est capable de réunir la majorité des 350 députés. Alors, théoriquement, légalement, on va dire, il y avait encore jusqu'à lundi prochain, à 23h59, pour que le Parlement accorde sa confiance à un chef du gouvernement. Mais Sanchez vient de dire qu'il ne faut pas créer de faux espoirs aux citoyens. Et quand on observe les résultats des dernières élections, c'est assez surprenant, consternant même, disent les électeurs de gauche, parce qu'il y avait bien une possibilité mathématique. Podemos, de gauche radicale, avait dit sa disposition à intégrer un gouvernement de coalition. Plusieurs groupes minoritaires, basques et catalans, étaient disposés à soutenir cette majorité. En juillet, le Parti Socialiste et Podemos se répartissaient déjà les ministères, mais en juillet toujours, les négociations n'ont pas abouti, Podemos n'a pas voté l'investiture de Sanchez, et depuis, les socialistes ne voulaient plus entendre parler d'un gouvernement de coalition, tout juste d'un programme commun, ce qui ne convenait pas à Podemos. La gauche, donc, remet tout en jeu lors d'élections incertaines. Les sondages sont bons pour les socialistes, certes, mais le risque d'une démobilisation de l'électorat de gauche est grand. Ça va être difficile d'expliquer aux électeurs que les responsables politiques vont être capables la prochaine fois de parvenir à un accord, alors qu'ils n'y sont pas parvenus en 5 mois.
Mathieu Le Taillac en direct de Madrid, merci. Emmanuel Macron s'est découvert une nouvelle priorité pour l'acte 2 du quinquennat, la maîtrise de l'immigration. Hier soir, le président a demandé aux parlementaires de sa majorité de ne pas laisser ce thème à la droite et au Rassemblement national. Emmanuel Macron, qui sera demain en Italie pour rencontrer le président du Conseil, Giuseppe Conte, reconduit dans ses fonctions grâce au Parti démocrate de centre-gauche. Giuseppe Conte a réussi à écarter le populiste Matteo Salvini du pouvoir. Résultat, l'Italie assouplit sa position sur l'immigration et les ports italiens s'ouvrent à nouveau aux bateaux des ONG qui portent secours aux migrants en Méditerranée. Le réchauffement climatique est-il en train de s'emballer? Oui, si l'on en croit la dernière étude publiée par des scientifiques français. Une centaine au total venus du CNRS, du Commissariat à l'énergie atomique ou de Météo France. Et leur constat est alarmant. D'ici 2100, la température moyenne sur le globe pourrait grimper de 7 degrés, alors que jusqu'à présent, les prévisions les plus pessimistes se limitaient à une hausse de 4,8 degrés. Les explications de Véronique Robérotte.
C'est le scénario du pire, du « on ne change rien », ce scénario. Le plus pessimiste repose sur des économies mondiales alimentées par des énergies fossiles essentiellement. C'est le scénario du « business as usual » qui ferait fi de l'accord de Paris. Ces prévisions, encore plus sombres que ce que prévoyaient les anciennes simulations, s'expliquent par l'utilisation d'outils plus fiables qu'il y a quelques années, expliquent les scientifiques français. Plus 7 degrés, cela signifie toujours plus de records de température, de vagues de sécheresse et des canicules à répétition, plus longues encore que celles de cet été, invivables dans beaucoup d'endroits de la planète. Le scénario le plus optimiste s'appuie sur une coopération internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique ambitieuse, délaissant très rapidement les énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone en 2060. À cette condition, il serait peut-être encore possible de rester sous l'objectif de 2 degrés du réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle, au prix d'un dépassement temporaire de cet objectif en cours de siècle. Mais il faudrait pour cela, disent les scientifiques français, agir vite, très vite, et aussi capturer et stocker du CO2 par d'autres moyens qu'une massive plantation d'arbres, ce que la technologie ne permet pas actuellement.
Véronique Robérotte, merci. Les cours du pétrole ont terminé en repli d'environ 6% ce soir à New York, et cela à la suite des déclarations rassurantes du ministre saoudien de l'énergie, le ministre qui a assuré que le royaume était désormais en mesure de fournir les mêmes quantités de pétrole qu'avant les attaques du week-end dernier. Les cours du pétrole avaient grimpé de près de 20% en séance hier à la suite de ces attaque de drones contre des installations pétrolières saoudiennes. On termine ce journal avec le temps. Demain, globalement ensoleillé, seul le sud des Cévennes et les Pyrénées connaîtront une évolution orageuse. Partout ailleurs, le soleil s'imposera rapidement après dissipation des nuages matinaux. Température minimale de 4 à 20 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 18 et 32 degrés de la Bretagne à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.